Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Reprendre les rênes et ramener l'ordre, Elisabeth Borne l'a dit hier, elle veut apaiser les tensions. Violence ce week-end à Sainte-Soline, mobilisation qui s'annonce tendue demain contre la réforme des retraites. Pour le gouvernement, il est urgent de sortir de la crise et l'une des pistes est politique. Ce midi, Elisabeth Borne et les chefs de la majorité sont attendus à l'Élysée. L'occasion pour la Première ministre de présenter à Emmanuel Macron son plan afin d'élargir la majorité, Arthur Delaborde.
Oui, il ne faut pas s'attendre à des annonces, confie un des participants. À ses yeux, avec cette réunion aux airs de cellules de crise à l'Élysée, Emmanuel Macron veut surtout montrer qu'il a la main et qu'il occupe la scène politique. Le président va sonder les uns et les autres, notamment sur la nouvelle méthode qu'il entend mettre en place, avec moins de lois, donc moins de votes au Parlement et plus de décrets. Pour trouver une solution à l'absence de majorité absolue, la Première ministre, elle, va expliquer son objectif de ne plus recourir au 49-3 en dehors des textes financiers. Chargée par le président d'élargir la majorité, Elisabeth Borne recevra dans la semaine du 3 avril les groupes parlementaires et les partis politiques, y compris ceux de l'opposition. Ce sont surtout les Républicains et Éric Ciotti qui sont visés, précise un proche d'Emmanuel Macron, qui estime qu'entre 20 à 40 LR pourraient rejoindre le camp présidentiel.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1, Éric Ciotti, le patron des Républicains, qui balaie tout rapprochement avec la majorité dans le Figaro ce matin. La question d'une intégration de la majorité ne se pose pas, dit-il. Tout débauchage individuel contribuera à une radicalisation des positions. Fin de citation.
Alors les syndicats, pour leur part, demeurent sur le pied de guerre. 10e journée de mobilisation demain contre la réforme des retraites.
Côté grève, les éboueurs parisiens vont décider de la suite de leur mouvement aujourd'hui. Près de 8000 tonnes d'ordures attendent toujours d'être ramassées dans les rues de la capitale. Dans les transports, perturbations dès ce soir et jusqu'à jeudi dans les aéroports. À la SNCF, en moyenne 4 TGV sur 5 et 2 TER sur 3. À la RATP, les bus et tramways fonctionneront normalement, mais les métros et RER resteront perturbés.
Autre conséquence de la grève, le manque de carburant. Hier, près de 17% des stations-service étaient en rupture de gasoil ou de sans-plomb.
Région la plus touchée, Pays de la Loire. Plus de 39% des stations concernées, 23,5% dans le sud-est. Bonjour Stéphane Burgat.
Bonjour à tous.
Correspondant d'Europe 1 à Marseille. Stéphane, on imagine les files d'attente à rallonge devant les stations-service de la cité phocéenne.
Oui, l'effet panique, hein, bien alimenté par un mouvement de grève qui tient bon dans les raffineries, dans les dépôts pétroliers, donne toujours lieu à ces ruées. Et c'est pourquoi 12 stations-service restent réquisitionnées dans le département pour les prioritaires, les soignants, les avocats, pénitentiaires ou encore le transport en commun. Comme Stéphane, il leur faut montrer patte blanche à des policiers à l'entrée de ces stations.
Très surveillé puisqu'il y a 3 policiers qui font le filtre.
Ils vous ont demandé quoi là ?
La carte professionnelle. Ah non, on passe pas comme ça, il faut présenter une carte professionnelle. Ça sert quand même vraiment à ce qu'il y ait un vrai filtre. D'ailleurs, il y a des voitures, comme on peut le voir, à mon avis, qui n'ont pas la carte professionnelle et qui repartent sans faire l'essence.
Voilà, dans les Bouches-du-Rhône, 42% des stations sont en pénurie partielle, donc sur au moins un carburant. De quoi soulager ceux qui arrivent enfin à la pompe, comme Laetitia.
Ouais, surtout que je travaille à Aix-les-Milles, donc du coup, 90 km par jour, soulagé de mettre de l'essence, même si ça avance tout doucement. Ouais, c'est la chasse au trésor, c'est horrible, c'est obligé de se lever tôt, de négocier pour mettre de l'essence et tout. Moi, je suis auxiliaire vétérinaire, donc j'ai pas forcément de certificat à prouver, donc c'est un peu plus dur de mettre l'essence, même si les vétérinaires sont apparemment prioritaires.
Et ce dispositif de pompe prioritaire reste en place jusqu'à demain matin, au moins, alors qu'il n'y a toujours pas de perspective d'amélioration, s'inquiète la préfecture de police.
Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 à Marseille.
Alors, y aura-t-il du carburant dans les stations-service demain? Ça, c'est une question. En voilà une autre. Y aura-t-il, comme jeudi dernier, dans les cortèges contre la réforme des retraites demain, des débordements?
Ces derniers jours, les affrontements entre manifestants et policiers ont entraîné une hausse des saisines de l'IGPN, la police des polices. 17 procédures judiciaires ouvertes depuis le 19 janvier dernier. Parmi les policiers visés, un agent filmé en train de frapper un homme au visage. Il s'agit d'un membre de la BRAVEM, brigade accusée de violences policières, dont plusieurs élus demandent la dissolution. Mais qu'est-ce que la BRAVEM ? C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1, Dimitri Vernet.
La BRAVEM, c'est la brigade de répression de l'action violente motorisée. Concrètement, ce sont des policiers parisiens, spécialistes du maintien de l'ordre circulant à moto. Une unité formée lorsque les autorités craignent des actions violentes dispersées. Avec sur le véhicule un binôme composé d'un pilote motocycliste et un policier piéton chargé, lui, d'intervenir armé d'une matraque télescopique, de grenades lacrymogènes et de désencerclement. Chaque section comprend également 4 porteurs de boucliers et un tireur de LBD. Tous sont équipés d'une caméra. Successeur des anciens voltigeurs, la BRAVEM a été créée en plein mouvement des Gilets jaunes en 2019 par l'ancien préfet de police de Paris, Didier Lallement. L'objectif, neutraliser le plus vite possible les casseurs et les black blocs, notamment sur les Champs-Élysées. La BRAVEM compte aujourd'hui 92 équipages mobilisables et ils seront près de 150 d'ici les Jeux Olympiques de Paris 2024.
Dimitri Vernet.
Le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info tous les matins dans le journal de 8h.
Des images d'affrontements violents, on en a vu tout le week-end à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Vous y étiez pour Europe 1, Guillaume Dominguez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes reporter Europe 1, envoyé spécial ce week-end donc à Sainte-Soline. Entre les gaz lacrymogènes des policiers et les projectiles des manifestants, votre témoignage est précieux ce matin sur Europe 1. Racontez-nous cette bataille rangée à laquelle vous avez assisté.
Eh bien, on pourrait comparer ça au siège d'un château médiéval. Imaginez un mur de terre formé par l'un des bords de la bassine, 3200 gendarmes tout autour et une vague humaine d'au moins 20 000 personnes à travers champs qui foncent tout droit sur le talus. L'objectif des manifestants, c'est vraiment de prendre possession du chantier. Donc rapidement, ils donnent un premier assaut. Et là, c'est le déluge. Il se met à pleuvoir de tout, des pierres, des boules de pétanque, de gros pétards. C'est très organisé. Certains manifestants tiennent des palissades et d'autres se cachent derrière pour lancer des projectiles. La réponse des forces de l'ordre est immédiate. Gaz lacrymogène, grenades de désencerclement, lanceurs de balles de défense. Et la tension monte encore d'un cran. Premier cocktail Molotov envoyé. Une voiture de police prend feu. En parallèle, les quads de la gendarmerie commence à encercler la foule pour séparer les manifestants. Le canon à eau de l'autre côté empêche le cortège de changer de direction. C'est une véritable scène digne d'un film de guerre.
On visualise bien la scène, Guillaume. Mais alors, comment vous avez-vous pu travailler dans de telles conditions ?
Eh bien, ça a été relativement compliqué, je ne vous le cache pas. On a eu même un petit peu peur parce qu'on s'était mis à l'écart pour essayer d'avoir une vue d'ensemble sur le cortège.
Quand vous dites vous, c'est le groupe des journalistes, les journalistes
l'ensemble
en général,
de la presse, oui. Télé, radio, presse écrite. Et malgré nos protections, parce qu'il y en a quand même un cas, un masque sur le visage pour se protéger des gaz, des lunettes. On s'est vite senti exposé. On a été visé par plusieurs pétards, des mortiers. Et d'ailleurs, deux de nos confrères du journal Sud-Ouest ont été blessés. Ils ont été hospitalisés après avoir reçu des pierres.
Mais vous avez été attaqué directement par une partie des manifestants.
En fait, oui, on était positionné sur une route à droite du cortège. Et on était quand même éloigné de plusieurs centaines de mètres des affrontements entre gendarmerie et manifestants. Et on a eu des tirs de pétards et de mortiers qui nous sont tombés dessus.
Merci beaucoup, Guillaume
Dominguez. Merci, Guillaume Dominguez. Témoignage dans les coulisses de votre reportage ce week-end à Sainte-Soline. Notez qu'hier soir, selon le parquet de Niort, le pronostic vital d'un manifestant de 30 ans est toujours engagé. Il souffre d'un traumatisme crânien.
L'actualité internationale à présent, la grève également. Et ça, c'est très rare chez nos voisins allemands.
Mais tous les transports sont à l'arrêt depuis minuit. Et pour 24 heures, les syndicats réclament 10% de hausse de salaire face à une inflation à 8,7% sur un an en février dernier. Et puis l'Ukraine demande une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU pour contrer le chantage nucléaire de la Russie. Samedi, Vladimir Poutine a annoncé le déploiement de missiles balistiques en Biélorussie aux portes de l'Europe.
Allez, plus léger, le football. Enfin, quoique, direction Dublin, où se trouve l'équipe de France de foot. Les Bleus affrontent ce soir l'Irlande. Match qualificatif pour l'Euro 2024. Et ce sera à vivre en direct et en intégralité sur Europe 1 dès 20h.
Et 3 jours après leur victoire 4-0 face aux Pays-Bas, les Français vont tenter de consolider leur place en tête de groupe. Cyril de la Morinerie, ils peuvent compter sur leur capitaine, Kylian Mbappé, auteur d'un doublé vendredi dernier et qui veut battre tous les records, dont celui de Michel Platini.
Oui, Kylian Mbappé, 38 buts avec le maillot frappé du coq, n'est pas rassasié. Le nouveau capitaine français n'est plus qu'à 3 buts d'un certain Michel Platini. Eh bien, Kylian Mbappé compte bien dépasser son illustre aîné.
C'est à la fois un honneur et c'est à la fois la prochaine cible à battre. Je vais continuer mon chemin jusqu'en haut. Et Michel Platini, c'est une légende absolue. Moi, je vais continuer ma route et ça passera par Michel Platini.
Michel Platini, une cible à abattre, dit-il. Des propos transgressifs qui ont surpris l'auditoire, mais pas Didier Deschamps, interrogé par Europe 1. Le sélectionneur connaît trop bien l'ambition sans limite de son nouveau capitaine.
C'est pas tout de le dire, mais c'est faire tout pour y arriver. Je sais le connaissant qui va tout faire. Il aura besoin des autres, mais voilà, c'est Kylian.
Et son coéquipier Olivier Giroud a du souci à se faire. Kylian Mbappé espère un jour dépasser les 53 buts en bleu de Giroud et devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France.
Cyril de la Morinerie.
Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal.
Restez avec nous sur Europe 1 et ne manquez pas à 8h30 les signatures d'Europe 1 Matin.
Oui, ce matin, Emmanuel Ducrot, Philippe Ball, ce sera juste après l'invité d'Europe 1 Matin. Dans un instant, Sonia Mabrouk reçoit le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. À tout de suite.